Voilà, bonjour. Voilà, alors comme je le disais ce matin à tous ceux qui étaient là, je suis content d'être au milieu de vous pour la deuxième fois, puisqu'il y a quelque temps j'étais venu pendant des vacances et l'occasion m'avait été donnée de prendre la parole et de partager avec vous le pain béni qui est venu du ciel, la parole de Dieu. Merci Jérémy pour l'honneur que tu me fais. Non, je n'ai pas entendu, mais ça est quand même venu. Voilà, que Dieu soit glorifié. C'est quand même un miracle si nous sommes ici. Non? C'est un miracle que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu ici est un miracle en soi-même, puisque on n'est pas rentré dans le ventre de notre mère, mais on est né de nouveau. On est passé par une expérience extraordinaire et si hier nous étions des hommes et des femmes incrédules, hostiles à tout ce qui était divin, de Dieu, de la parole de Dieu, aujourd'hui, nous sommes là et nous rendons gloire à Dieu. Nous le bénissons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une action, une opération du Saint-Esprit. Et ce n'est pas une blague, c'est une réalité. On le dit dans le monde, tu crois que ça se fait par l'opération du Saint-Esprit? Oui, ça s'est fait par l'opération du Saint-Esprit. Nous sommes devenus des hommes qui sont nés de nouveau. Nous sommes parvenus par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, à devenir non pas des incrédules, mais des hommes et des femmes qui sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à sa lumière, et nous sommes passés de la puissance de Satan à la puissance du Fils de son amour. Que Dieu soit glorifié. Et puis on est passé véritablement du monde des ténèbres au monde de la lumière. Et c'est quand même plus agréable de marcher dans la lumière que dans les ténèbres. Dernièrement, je prêchais dans une petite annexe de notre assemblée, et j'ai pris un enfant avec moi et qui était devant, et je lui ai dit, écoute, viens Marc, on va voir ce que ça donne quand on est privé de la lumière. Alors je l'ai pris, je lui ai demandé de fermer ses yeux, et puis je l'ai fait tourner 3-4 fois sur lui-même, et je lui ai dit, maintenant, Marc, va vers la sortie. Alors bien évidemment, il a marché doucement, il a tâtonné, et il est arrivé finalement à aller à l'opposé de ce qu'il fallait faire. Alors il y a une différence qui se fait quand on est malheureusement pécheur perdu. On est perdu, en effet, de la vraie vie. On est privé de la vraie vie, on est privé de la lumière de la vie. On est privé, en effet, de la vérité à cause du péché qui est venu dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous sommes devenus des brebis errantes et vagabondes. Chacun suivait ses propres voies. Notre cœur était plongé dans les ténèbres. Un voile s'était mis sur nos yeux, en effet. Et nous étions privés de la lumière de Dieu. Et nous essayons, en effet, de nous conduire. Et c'est bien ce qui se passe dans le monde. Le monde, quand il marche, il tâtonne. C'est comme si on était privé de la lumière du jour. En effet, privé, en effet, de la vue. Et ne pouvant pas voir, on ne sait pas ce qui se passe devant. On marche comme en tâtonnant. C'est ce que nous étions autrefois, mais aujourd'hui que nous avons Jésus, la lumière qui est venue jusqu'à nous. Nos yeux se sont ouverts, les yeux de la foi. Et aujourd'hui, nous savons d'où nous sommes sortis, nous savons ce que nous sommes aujourd'hui et nous savons où nous allons demain. Et nous ne marchons plus en tâtonnant, mais on sait où on va. Il faut vraiment être béni de Dieu pour venir dans une salle comme celle-ci alors qu'il fait un soleil merveilleux dehors. Quoique, attention au soleil, il peut être dangereux aussi. Alors j'aimerais partager avec vous et ouvrir le livre avec vous dans l'Épître aux Hébreux, la Bible, et puis nous allons ensemble lire un passage qui nous rappelle donc en effet l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus. Et vous savez comme moi que dans cet Épître aux Hébreux, chapitre 12, il nous est fait mention en effet de considérer Jésus. Et l'Épître aux Hébreux est aussi ce texte, ce livre, qui nous parle de l'excellence du sacrifice de Jésus, qui nous parle en effet de l'excellence du don de sa vie en supériorité par rapport au sacrifice de l'Ancien Testament. L'offrande de Jésus, Jérémie le faisait remarquer, il y avait beaucoup d'agneaux qui ont été sacrifiés, qui ont été égorgés pour prendre le sang et qu'ils soient le moyen par lequel d'échapper à la mort qui régnait dans le monde et la sécurité régnait dans les foyers hébreux. Il y avait là une sécurité, on se nourrissait de l'agneau, on se nourrissait en effet de cette nourriture de cet agneau qui avait été sacrifié, égorgé, pendant que le sang protecteur gardait le foyer des Hébreux. Des pleurs, des larmes, des cris étaient dans le monde dans lequel ils y étaient parmi les Égyptiens. Tout ce qui était étranger à Dieu. Régner la mort, planer la mort. Et la parole de Dieu nous enseigne à considérer l'œuvre du Seigneur. Et puis, la parole de Dieu nous dit encore, dans cet épître aux Hébreux, chapitre 12, que nous avons été, et nous sommes appelés à voir les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mais une chose qui est très importante, de fixer les regards sur le chef et le consommateur de la foi, afin que nous puissions vivre. Et puis, nous allons lire ensemble ce verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang luttant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît. » Pour ses fils, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Et puis on saute quelques versets, s'il vous plaît, et nous allons lire maintenant le verset 12 qui dit « Fortifiez donc vos mains languissantes, vos genoux affaiblis, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. » Et puis, encore une fois, non seulement nous avons été exhortés à considérer celui qui a donné sa vie, mais il finira encore en disant « Veillez à ce que personne ne se trouve en arrière de la grâce de Dieu. » J'ai toujours dit, un chrétien qui ne vit plus dans la grâce, c'est un chrétien qui n'est plus gracieux. Mais il est raide comme la justice, il est dur. C'est la grâce qui nous a appris, en effet, à être compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est la grâce de Dieu qui nous rappelle en effet que c'est une faveur que Dieu nous a faite. Que si nous sommes aujourd'hui ici, c'est par pure grâce. Ce n'est pas que nous avions, par nos efforts personnels, à la force de nos poignets, essayé d'avoir fait des bonnes œuvres pour mériter la bonté de Dieu. Non, avant que je n'existe, avant que nous soyons, Dieu était, et dans sa préscience, il avait conçu un plan extraordinaire, c'est faire de nous des enfants par adoption, en Jésus-Christ, par la foi. Dieu avait prévu ce plan merveilleux avant que le monde soit fondé, avant que le monde existe. Dieu avait prévu dans sa préscience un projet extraordinaire qu'il a mis à exécution en son temps et au temps marqué de Dieu. Dieu a envoyé son Fils dans le monde et son Fils est venu accomplir la plus belle, la plus grande des œuvres qui va mettre par terre celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est venu en effet lutter contre l'adversaire de nos âmes. La Bible dit que poussé par l'Esprit, il fut tenté, entraîné dans le désert pour être tenté par le diable. Et Jésus, pendant 40 jours, effectivement, il a résisté aux sollicitations du diable, aux tentations de l'adversaire. Et Jésus s'est toujours réfugié dans la parole. Il dira, il est écrit. Et dans trois domaines très particuliers dans lesquels nous sommes tous éprouvés les uns et les autres, c'est en effet par le moyen de la convoitise, de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce qui est dans notre vie aux uns et aux autres, l'ennemi essaiera par ces trois moyens de s'infiltrer dans la vie des hommes, par le moyen de la chair, par le moyen des yeux, la vision où nous regardons nos pensées, notre être intérieur. Mais Jésus n'a cédé à aucune des tentations de l'adversaire. Il n'a rien à voir en moi, disait Jésus. Il n'a rien en moi. Et il a su garder son cœur pour son Père, et puis il a accompli la plus grande des œuvres en mourant sur la croix du calvaire. Et là où on pensait que c'était fini, c'est alors que tout a commencé. Dans un semblant de défaite, il y avait une puissance extraordinaire. De la mort va jaillir une puissance de vie. On n'aurait jamais cru ça. Les plus grands de ce monde, avec leur sagesse, n'ont pas compris ce plan. N'ont pas compris la sagesse divine. Mais Dieu est venu et l'a fait en son Fils bien-aimé, et par une personne en effet qui n'est pas venue en son nom de la trompette, en gonflant le torse, mais une personne qui s'est humiliée jusqu'à la mort, même de la croix du calvaire. La Bible dit, il s'est soumis aux lois divines, il s'est soumis aux lois parentales, il s'est soumis à la loi du peuple. Jésus a été l'homme obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Et parce qu'il s'est abaissé, Dieu l'a souverainement élevé. Et alors qu'on n'a jamais cru son message, le Père a justifié son Fils en le ressuscitant d'entre les morts 3 jours après. Alors là, ça fait des dégâts dans le camp de l'adversaire. Parce qu'à partir de là, Dieu allume un feu dans le monde. D'abord, il dira à ses disciples de se retrouver à Jérusalem et d'attendre en effet dans la chambre haute, en effet, la promesse qu'il avait faite de nous envoyer un consolateur, l'Esprit Saint, un autre moi-même, quelqu'un qui va agir comme moi, qui va être un consolateur, quelqu'un qui va apporter, qui va soutenir. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui était indispensable, effectivement, pour que naisse l'Église, un corps. Le jour de la Pentecôte, l'Église est née. Dans la souffrance, le corps est né, tout comme une femme enfante dans la douleur de l'enfantement. Un homme vient au monde, elle a souffert, mais dès que l'enfant est venu au monde, elle se réjouit de l'avoir mis au monde. Elle oublie les douleurs et elle se réjouit d'avoir mis un homme au monde. De la même manière, les souffrances de la croix sont venues, mais après les souffrances, le Seigneur se réjouira de voir un peuple nombreux venir à lui. Et nous faisons partie de ces nombreuses âmes qui, des ténèbres, sont passées à la lumière grâce à la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Cet après-midi, donc, j'aimerais parler avec vous sur ce thème de la sanctification. Il est certain qu'aujourd'hui, de nos jours, la sanctification est quelque chose qui parfois peut déranger. On sait qu'aujourd'hui, on préférerait parler, en effet, du retour de Jésus. On aimerait bien parler, en effet, d'autre chose que de la sanctification. On aimerait parler autre chose que de la consécration, par exemple. En effet, mais la sanctification est indispensable. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et au-delà de nos choix, de nos désirs, de nos pensées, est-ce que c'est bien, est-ce que je fais bien, est-ce que je devrais me sanctifier? C'est Dieu qui l'a décidé. La Bible dit que Dieu veut notre sanctification. Dieu veut notre sanctification. C'est une expression de la volonté de Dieu. Dieu veut notre sanctification. Dieu veut que nous nous sanctifions les uns et les autres. Alléluia. Bien sûr, il y a deux termes. Bien sûr, dans le mot sanctification, le fait de se mettre à l'écart, et puis le fait de rester saint, et de se mettre à l'écart pour être saint, et demeurer saint. Donc c'est important ce thème, parce que de là il découle en effet toute une manifestation de la vie de Dieu. Encore une fois, comme je le disais ce matin, la sanctification n'est pas une option, c'est quelque chose de très important. On sait que le peuple d'Israël, en effet, pour conquérir le pays de Canaan, il a fallu qu'il se sanctifie avant. Et il était évident, en effet, que la sanctification n'avait que pour but, non pas pour dire, voyez, on est plus saints que vous, vous êtes sales, nous on est saints, non pas pour devenir des propres justes, des pharisiens, non, non, pas du tout, mais tout simplement se sanctifier pour garder la présence de Dieu avec nous. Est-ce que vous voulez garder la présence de Dieu avec vous? Est-ce que vous voulez être un temple beau mais abandonné et vide? Ou est-ce que vous préférez être un temple beau et sien et rempli de sa présence? On l'a été, mais on le veut, et on le veut le demeurer. C'est important. Un chrétien sans la présence de Dieu, c'est difficile. Il manque une dimension. Ce qu'il faut, un temple, c'est pourquoi faire un temple? À quoi ça sert un temple? Un culte, pour faire un culte, un temple, c'est pour rencontrer une divinité. La Bible dit que Dieu dit que l'Église, c'est le temple de Dieu. Paul le déclare. Il dira aussi que nous sommes, chacun pour notre part, le temple du Saint-Esprit. Alors que ce soit l'Église ou que ce soit, mais personnellement, moi, je dois être un moyen par lequel les âmes du dehors peuvent rencontrer Dieu. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu est capable de faire quand vous êtes rempli de l'Esprit. Vous ne pouvez pas savoir, ça se sait, ça se voit même par des inconvertis. Regardez Moïse quand il descend de la montagne. Il était obligé de mettre un voile, lui, sur sa tête. Mais nous, on ne fait pas comme Moïse qui mettait un voile. Nous, c'est un visage découvert. Nous voulons refléter celui que nous contemplons par la foi. Et celui que nous voyons comme couronné d'honneur et de gloire. Et ça change un homme, ça change une femme, ça change en effet un individu quand l'homme s'approche de Dieu. Il ne revient jamais comme il est venu auprès de Dieu. Dieu a tant d'amour qu'il nous aime, il nous prend tel qu'on est, mais il nous aime trop pour nous laisser comme on est. Il nous transforme et il nous change, il nous métamorphose. Et là, ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait. Comment? Par la puissance de son esprit, que Dieu soit glorifié. Amen. Il nous transforme. Un jour, j'étais fortement étonné, une chrétienne que je suis allé visiter avait invité une de ces personnes, une voisine inconvertie, et cette personne, donc cette brave sœur, me présente auprès de cette amie qu'elle avait invitée, Et elle va pour lui dire qui je suis. Et avant qu'elle dise quoi que ce soit, elle dit, arrêtez, je sais qui c'est. Fait, ah bon, qui c'est? Elle dit, c'est le pasteur. Ah, je lui fais, mais comment vous savez? Ben, j'ai dit, ça s'est vu. Ça s'est vu? Oui, ça se voit. Vous voyez, vous? Ben, elle l'a vu, elle. C'est extraordinaire, quand même, hein? Oui, je crois. En effet, que nous ne sommes pas des gens qui sont laissés sur la terre pour rien. Je crois qu'il y a sur nos vies, il y a comme une marque, un sceau. Il y a en effet comme quelque chose, une empreinte qui est laissée de la part de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, en effet, autrefois sans Dieu, le péché avait laissé des marques et nous étions flétris par le péché dans nos vies. Mais quand Jésus est venu, Jésus nous a transformés. Il nous a enlevé cette image flétrie de la gloire de Dieu. Et il nous transforme en la même image de gloire en gloire, comme le Seigneur. Comment ? Par l'Esprit. Alors voyez-vous, nous avons besoin, frères et sœurs, que la sanctification s'opère dans nos cœurs et dans nos vies par le Saint-Esprit, pas par mes forces, pas par mon mental, non pas par mes capacités intellectuelles, car je crains que si c'était comme ça, la sanctification aurait beaucoup de couleurs. On passerait du blanc au noir. Dieu n'a pas laissé la sanctification à notre idée, à notre manière. Dieu sait, c'est la sanctification que Dieu veut opérer dans nos cœurs. Amen. Donc c'est très important. Je disais aussi que Dieu nous a donné des moyens pour la sanctification. Il nous a donné, bien sûr, Jésus, qui lui a été sanctifié pour nous. Il s'est sanctifié, il a marché parmi les pécheurs, mais n'a jamais péché. Il ne s'est pas privé, en effet, d'aller vers le monde, mais il s'est conservé du monde, il s'est protégé des choses de ce monde. Il s'est sanctifié, il s'est mis à part, et l'apôtre Paul dit que Christ a été fait pour nous sanctification. Et quand nous avons été sauvés par grâce et lavés par le sang précieux de Jésus, la Bible dit que nous avons été mis à part. On est passé d'un endroit à un autre, d'un statut à un autre statut. D'enfant de diable, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors que nous étions en bas, nous sommes devenus des gens du haut. Alors que nous étions de la terre, nous sommes venus des gens des cieux, citoyens des cieux, en route vers le ciel. On n'est plus les mêmes, on a une nouvelle identité, une vie nouvelle que nous avons reçue, des orientations nouvelles, une vision nouvelle de la vie. Et nous, on croit que la vie, elle est belle quand on la vit avec Jésus, et que le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous, et quand le pire arrivera, c'est-à-dire quand il voudra fermer les yeux sur ce monde, ça sera pour les ouvrir en effet dans le ciel. La mort a perdu son pouvoir. Comme disait un serviteur que j'ai connu, avant qu'il meure, vous avez dû peut-être le connaître, Aimé Blanc. Il disait toujours, chaque heure qui passe nous rapproche de Dieu, et la dernière nous y introduit. Donc plus nous allons, plus nous rapprochons du jour du retour et plus nous sommes près du retour du Seigneur et nous allons à sa rencontre. Donc, la sanctification par Jésus, il y a la sanctification, en effet, qui s'opère par la parole de Dieu, puisque Jésus a dit dans Jean 17:17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Je crois de tout mon cœur qu'il ne faut pas espérer de sanctification sans la parole. C'est la foi dans la parole qui me sanctifie. Comprenez cela? Essayer de se sanctifier sans la parole, c'est dur. Mais croire la Bible parce que c'est la parole de Dieu opère en nous une sanctification. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que son message rend heureux. Et parce que je crois, alors la foi qui est en moi dans la parole de Dieu me sanctifie par le pouvoir de la parole de Dieu. Amen. Ceux qui aiment la parole de Dieu sont à part. Ceux qui sont dans le monde, ils n'aiment pas la parole de Dieu, ils la rejettent. D'ailleurs, n'est-il pas dit que Jésus est venu parmi les siens, lui la parole faite chair? Les siens ne l'ont pas voulu, ils l'ont rejeté. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? De Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et puis enfin, il y a aussi cette sanctification qui s'opère par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. La sanctification par le Saint-Esprit. Vous savez donc que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité, de la Trinité, pardon. Et le Saint-Esprit a été envoyé avec pour mission de conduire les croyants, d'éclairer les croyants, d'équiper les croyants. Il y a un travail, un ministère extraordinaire que le Saint-Esprit veut agir. Merci Seigneur pour la promesse du Saint-Esprit. Et ne croyons pas que cela ne nous concerne pas. Ne croyons pas que nous ne méritons pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le mensonge du diable. Dieu dit dans sa parole que le Saint-Esprit est pour tous ceux qui vont croire en lui. La seule condition sine qua non, c'est de croire dans la Bible, c'est croire ce que la Bible dit. Et quand Jésus a dit dans son évangile, si quelqu'un soif, qu'il vienne et qu'il boive, il dira que des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture, et il dit cela du Saint-Esprit que devaient recevoir tous ceux qui croiront. Que Dieu soit glorifié. Aussi grand nombre que Dieu les appellera, de près ou de loin, la promesse du Saint-Esprit est pour tous les croyants, sans exception, que Dieu soit glorifié. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de chouchou avec Dieu, c'est pour tous les croyants, quels qu'ils soient. Que Dieu soit glorifié, crois-le de tout ton cœur, c'est la promesse. Il y en a bien un qui veut que tu sois rempli du Saint-Esprit plus que toi, c'est Dieu. Il ne faut pas douter de ça, hein? Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Paul le dit, soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Allez, soyez débordants du Saint-Esprit, afin qu'il y ait une œuvre intérieure et une œuvre extérieure. Afin que ce qui se fait dedans soit comme le bio se voit dehors. Eh oui, ce qui se fait dans le secret de nos cœurs finit par se voir parce qu'il y a toujours des fruits qui découlent en effet de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, la part du Saint-Esprit dans la sanctification, le ministère qu'il accomplit, un autre moi-même, disait Jésus. Jésus a exercé un ministère glorieux sur la terre. Il y a le ministère que Jésus a accompli, et combien il a été glorieux. On aurait pu dire c'est fini, non, il a envoyé un autre lui-même, une autre personne est venue, le Saint-Esprit exerçait un ministère parmi les croyants, que Dieu soit glorifié de plus en plus. Remarquez, et je le disais ce matin en effet, que nous vivons dans un monde difficile. Le monde est difficile, le monde est dur aujourd'hui, vous avez vu? D'ailleurs, on dit toujours, oui, mais c'est dur, oui, puis ça va aller de plus en plus dur, parce que la nuit s'épaissit dans le monde. Mais non seulement le monde est plongé dans les ténèbres les plus noires, dans l'obscurantisme, mais il y a aussi l'esprit du monde qui enténèbre l'esprit des hommes. L'air que nous respirons est pollué, l'atmosphère dans laquelle nous sommes est lourde. Des vents de violence, des vents de folie, d'angoisse côtoie en effet le progrès. Il y a toutes sortes de choses comme cela dans le monde. C'est de plus en plus difficile. L'iniquité s'accroît dans le monde. Et à cause de l'iniquité qui s'accroît, la Bible dit que l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Ce qui veut dire pour moi qui suis enfant de Dieu, ce n'est pas, je ne dois pas mépriser, je ne dois pas négliger la nécessité que le Saint-Esprit vienne sur moi, qu'il me remplisse, que j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Comme je le disais, si je suis rempli du Saint-Esprit, le diable et le monde ne pourra pas me remplir. Chargeons-nous en effet de veiller à ce que nous soyons remplis de la personne de Dieu, de la parole de Dieu, en effet du Saint-Esprit du Seigneur, afin que remplis du Saint-Esprit, nous puissions remplir la ville de Toulouse et ses alentours. Amen. Étant réveillé parce que le Saint-Esprit vit en moi, il est un feu, il m'avertit quand je fais mal, c'est le feu qui juge le péché dans ma vie. Et par voie de conséquence, bien évidemment, m'accordera le discernement dont j'ai besoin. Un monde pollué, un monde d'agitation, d'angoisse, dans lequel je vis, progresse dans ce monde. L'esprit du monde dans lequel je vis, le mal et le bien c'est mal. Vous avez remarqué ça maintenant? Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit, quand malheur, quand on appellera le bien mal, et le mal bien. Et Dieu dit, il est temps maintenant de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est dans ce monde-là que nous sommes appelés à vivre. C'est dans ce monde, en effet, que nous sommes appelés à témoigner. C'est dans ce monde que l'Église est appelée à grandir et à se bâtir, en effet, pour construire un temple saint pour le Seigneur, que Dieu soit glorifié. Alors, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé l'Esprit Saint pour nous aider dans nos faiblesses, dira l'apôtre Paul aux Romains. Il ne nous a pas laissés sans rien, sans moyen. Il ne nous a pas abandonnés, mais il nous a donné son Esprit Saint pour survivre. L'Esprit, en effet, de vérité, vient sur nous à notre secours. Nous ne voulons pas le mépriser, ni le négliger, et ne pas permettre non plus que notre âme, vivant dans ce monde, finisse par être asphyxiée, mourir à cause de cet air, cette atmosphère polluée dans le monde. Quand Jésus était sur la terre, ceux qui voulaient lui parler, en effet, devaient se rendre à l'endroit où il était. Mais aujourd'hui, on a un privilège extraordinaire. C'est partout où nous sommes, je peux parler à Dieu. Je peux parler tout seul dans mon salon au Seigneur. Je peux parler tout seul au travail à mon Seigneur. Je peux avoir une communion avec lui. Je me souviendrai encore une fois, pardonnez-moi si je parle de moi. Ce n'est pas pour parler de moi. Mais je me souviendrai en travaillant dans une grande surface. En effet, j'étais ELS, employé libre-service. Et je mettais en rayon les marchandises. Et alors que j'étais en train de mettre en rayon les marchandises, et j'y allais, et en chantant. Et content parce que le Seigneur était là dans mon cœur. Il n'y avait plus la notion du travail autour de moi, il n'y avait plus la notion des gens qui étaient autour de moi. Et je mettais en rayon mes poulets. Mes poulets dans les rayons. Et puis, je ne savais pas, il y avait quelqu'un qui me suivait derrière. Il essayait de me dire bonjour. Il n'y arrivait pas, je mettais les poulets. Et je chantais, j'étais content, je bénissais le Seigneur. Et il me courait derrière pour me dire bonjour. Mais en plus, le pauvre, je ne le voyais pas du côté là, puisque j'ai qu'un œil. J'ai perdu un œil, en effet, lors d'un accident de travail. Alors, il était du mauvais côté, je ne le voyais pas. Mais je bénissais le Seigneur et l'Esprit de Dieu était sur moi. Oh, que c'est merveilleux. Ça nous aide à aller au travail. Et à travailler de bon cœur, quand parfois le patron, il n'est pas facile. Ou peut-être, si vous êtes patron, les ouvriers ne sont pas terribles. Ça nous aide à les supporter. Je dis ça parce qu'un jour, à Saint-Étienne, je disais cela dans un sens, et puis il y a un frère qui m'a chopé à la fin de la réunion, il m'a dit, frère, c'est pas gentil, parce que moi, je suis patron, j'ai des ouvriers, alors nous aussi, on est... Je dis, merci de me l'avoir dit, j'y penserai la prochaine fois. Alléluia. Donc, nous savons que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous établir dans une communion partout où on est. On n'est pas obligé d'être à un endroit particulier comme Jésus quand il était vivant sur la terre. Mais partout, on peut prier le Seigneur. On peut monter sur les plus hauts sommets des montagnes et contempler la gloire de Dieu. Les cieux, des cieux racontent sa gloire. La terre manifeste la puissance de Dieu, la perfection invisible de Dieu quand on le considère dans ses ouvrages. Je peux descendre dans les profondeurs de la mer et y découvrir encore des merveilles de Dieu. Ce qui échappe au regard est pourtant là. Comme disait Jérémie, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, nous découvrons les merveilles de Dieu. Oh, qu'il est beau l'éléphant. Mais la puce, elle a été créée. Elle a été créée par Dieu. Que Dieu soit glorifié. C'est mieux avoir un éléphant peut-être au zoo. Et les puces, ça nous dérange quand ils sont jaloux, hein. En tous les cas, Dieu a créé ces choses-là. Et donc, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons une communication. Paul disait ceci, qu'il désire que nous ayons en effet la communion avec le Père, la communion avec l'amour qui est en Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit. Avoir la communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est chargé de communiquer aux croyants, aux chrétiens, à ceux et celles qui se sanctifient, à ceux et celles qui se mettent à part, à ceux et celles qui cherchent la face de Dieu. Il nous communique les pensées d'en haut, les pensées du ciel. Ça, c'est extraordinaire. Et je disais toujours, je bénis Dieu de ce que Dieu m'a donné un professeur à domicile gratuit. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les cours sont chers, hein. Mais nous, on a un professeur, le meilleur, le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est ce que dit la parole de Dieu. Qui connaît la pensée de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, qui connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Ils sont tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Et il nous les révèle, que son nom soit glorifié. Alors, on a besoin, bien sûr, que le Saint-Esprit vienne. J'ai cette possibilité de pouvoir parler avec lui. J'ai la possibilité de le prier à n'importe quel endroit. C'est plus un endroit, c'est plus un jour, c'est en tout temps, par l'Esprit, je peux avoir, en effet, une communication du Saint-Esprit, une communion profonde avec mon Père et avec le Fils, que Dieu soit glorifié. Et puis aussi de nous communiquer par le Saint-Esprit la parole ou les paroles de la vie éternelle, mais aussi une puissance de vie qui est régénératrice. cette puissance de vie qui m'aide à vivre la vie à laquelle j'ai été appelé les uns et les autres. Car vous savez, comme moi, vous avez tous un problème. Vous savez, vous avez un problème ? Vous avez un sérieux problème, c'est vous. Nous dit, c'est le diable. Oui, mais des fois, ce n'est pas toujours le diable. Hein. Vous croyez pas ? Des fois, le diable, il a bon dos. Hein. Des fois, c'est une manière de s'excuser. Mais des fois, c'est moi le problème. C'est ma chair le problème. Paul l'avait compris. Quand je veux faire le bien, je fais le mal. Je fais le mal que je ne veux pas, et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Avec mon esprit, je prends plaisir à la loi divine, mais je trouve qu'il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est la loi du péché dans ma chair. Il dit, oh malheur, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Il n'est pas fataliste, lui. Mais il dit la vérité. Il dit, mais si je n'ai pas l'action de Dieu, si la grâce de Dieu n'est pas agissante dans ma vie, je suis perdu, je ne peux pas y aller. C'est pourquoi tout de suite après, il dira dans le chapitre 8 des Romains. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car l'esprit de vie qui est en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oh là là, puis chapitre 8, c'est le top. C'est le top, parce qu'il y a tout un dessein. Et puis c'est ce verset que l'on connaît par cœur. Toutes choses concourent au bien. Mais on n'est pas juste parce qu'on a oublié le reste. Il y a un dessein. Alors comme ça, les gens ils disent, oh ben c'est pas grave, j'ai fait des bêtises, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Attends, non, si tu fais le contraire de ce que Dieu dit, je ne pense pas que ça va te faire du bien. Il y a un dessein de la part de Dieu, il y a une volonté exprimée. Enfin, vous connaissez aussi ce texte de Actes 1:8. Non ? Voilà, vous recevrez une puissance qui, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Parce que pour être un témoin de Jésus-Christ, il nous faut la puissance d'en haut. Amen. J'ai besoin de l'action du Saint-Esprit. Attendons, témoin ne veut pas dire forcément parler. Hein. Témoin, c'est vivre. C'est le vivre. C'est vivre, ça c'est un témoin. Vous avez un témoin à votre voiture. Heureusement pour vous qu'il ne s'allume pas toujours. Non, parce que s'il s'allume tout le temps, c'est grave. Mais des fois il est éteint, mais c'est bon, c'est que ça va bien. Il est témoin. Nous sommes témoins de Jésus-Christ par nos vies. Avez-vous déjà reçu en effet une décharge électrique ? Est-ce que quelqu'un n'a pas reçu de décharge électrique ici ? Est-ce que quelqu'un n'a jamais pris le courant ? Levez la main, voir. Vous, on peut faire l'expérience ? Non ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Comment ? Ah, ça peut vous tuer ? Donc finalement, quand vous prenez le courant, ça se sent. Ça passe pas inaperçu, hein, quand vous mettez les mains dans... Un jour, je travaillais sur un chantier, j'étais un peu foufou, je travaillais pieds nus, travaillé sur les chantiers en tant que menuisier. Et puis un jour, je suis allé dans la gaine technique, en effet. Et là, j'ai été branché deux fils, en effet, pour faire une rallonge. Ah, je vous dis pas. J'ai pas touché le bon fil. C'est moi qui ai été branché. Et je vous dis pas la décharge électrique. Je recule en arrière pour coller au mur. Oh là là. Et une fois, j'ai fait l'imbécile. On faisait des travaux à l'église dans laquelle je suis. Et entre deux réunions, une l'après-midi, une le soir... Il y avait un néon qui était là, on était en train de refaire les plafonds. Ah, ça ne me plaisait pas, je disais, pas possible, on ne peut pas rester comme ça. Alors je suis monté, j'ai fait un escabeau avec des tables et tout ça. J'ai pris un tournevis. Puis malheureusement aussi à cause de mon œil, étant donné que j'ai qu'un œil, je n'ai plus le relief exact. Alors des fois, je ne vise pas bien. Et là, encore une fois, j'ai mis la main, il ne fallait pas, ça a fait contact avec le tournevis. Ah, je ne vous dis pas, j'ai sauté en arrière de la table, dites. Pour vous dire, quand vous recevez une décharge électrique, ça se sent, hein? Mais quand le Saint-Esprit, lui, il agit, ça se voit, ça se sent. Vous le sentez. Un frère me disait là dernièrement, ce matin, qu'il avait été baptisé du Saint-Esprit et il a fait ce qu'on disait ce matin, il a cherché la face de Dieu. Il s'est mis à part, il s'est mis à prier, à chercher la face de Dieu. Et il a été baptisé du Saint-Esprit. Tu l'as senti ? Ben oui. Ça se sait. Quand on a en effet une décharge du ciel... Amen. Et quand on est visité par le Saint-Esprit, que Dieu soit glorifié. Ce qu'il nous faut donc, c'est retenir, c'est que le Saint-Esprit nous rend capables d'être en communion avec Jésus et nous communique la force de lui obéir. Est-ce que nous le voulons ? Parce qu'obéir, ce n'est pas automatique. Même quand on est enfant de Dieu. Parce que vous savez qu'un enfant de Dieu a toujours la liberté d'obéir ou ne pas obéir. Un enfant de Dieu n'est pas dire de lui, tu t'es fait baptiser, tu n'as plus le choix, hein, c'est comme ça. Hein. C'est jamais marqué dans la Bible, je suis toujours libre. Paul dit, tout m'est permis, je peux tout faire. Mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Mais tout n'est pas utile. Voilà ce qu'il dit l'apôtre Paul. Mais jamais il dira qu'en effet, que Paul était un esclave voulu par Dieu parce que lui, de toute façon, il n'a pas le choix. Ce n'est pas vrai. Il a dit lui-même, je suis esclave, doulos, un serviteur, un esclave de Jésus-Christ, mais volontaire et engagé. C'était volontaire parce qu'il avait ce choix, c'était son choix, le voulons-nous aussi véritablement. Bon, le cas du ministère de l'Esprit, ce que la Bible appelle la sanctification par le Saint-Esprit, donc c'est important. Nous avons été sanctifiés, Paul dit aux Corinthiens, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Important la crainte de Dieu. Et nous aimons le rappeler, ce n'est pas la peur de Dieu, quoique si quelquefois Dieu nous faisait peur, ça ferait du bien. Imaginez-vous quand Ananias et Saphira, en effet, découvert dans leur péché le mensonge qu'ils avaient, mentant au Saint-Esprit, ils sont tombés raides de mort, en effet, devant l'Église. Je pense qu'il y en a plus d'un qui ont dû dire, oh là là, attention, hein. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Seigneur Jésus. Donc, dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu. Je pense que la crainte de Dieu, elle vient de cette révélation de Dieu. Quand on a compris, quand on réalise Dieu, et quand on l'aime de l'amour dont il nous a aimés, nous ne pouvons pas lui faire du tort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas du mal. Non? Ou alors on est comme ce fameux fiancé? Je ne dis pas que c'est le cas ici, s'il y en a. Vous vous rendez compte, ce fiancé qui dit, « Oh, moi je t'aime, je ferai n'importe quoi pour toi. Demande-moi ce que tu veux, mais enfin, s'il pleut demain, je ne viens pas te voir. Hein? » Ah bon, c'est ça ton amour? Ah Seigneur! 1 Thessaloniciens 4, 3, ce que Dieu veut, donc c'est votre sanctification, de nous appeler à la sanctification. Et puis Christ s'est livré, en effet, afin de sanctifier l'Église. Aller dans le sens de la sanctification, c'est aller dans la continuité de l'œuvre de Jésus à la croix. La sanctification. Et puis, dans 1 Pierre 1, 2, il disait ceci, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il parle de ce que nous étions autrefois. Nous étions ivrognes, nous étions efféminés, nous étions des choses comme ça, il y avait des choses qui n'étaient pas belles. Mais vous étiez, mais maintenant Jésus-Christ, vous n'êtes plus. Nous avons été sanctifiés. Donc, trois points importants. Le premier, qu'est-ce que le Saint-Esprit va opérer en nous? Il vous baptisera d'esprit et de feu. De feu. Le feu a différentes actions, mais le Saint-Esprit est venu, en effet, pour juger le péché. Le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre de péché. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai toujours besoin d'être convaincu de péché. Parce que j'ai remarqué que depuis que je suis baptisé, j'ai encore péché. Pas vous? À moins que vous soyez parfait. Tant mieux, remarque. Hein? Mais on sait très bien qu'on se rate, qu'on se loupe. Et que nous avons besoin de revenir à Jésus. Comme le dira l'apôtre Jean, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, qui nous a lavés, purifiés de tout péché. Donc parfois il m'est arrivé de pécher, j'ai chuté, mais cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Amen, l'important c'est de garder la foi. Garde la foi, parce que le Seigneur ne se lasse pas de nous pardonner. Moi je me lasserai plus vite que lui, mais lui ne se lasse pas de nous pardonner. Et le pardon est auprès de Dieu, j'allais même dire, Dieu prend plaisir à pardonner. Il prend plaisir à pardonner le pécheur. Il a miséricorde à triompher du jugement en lui. Que Dieu soit glorifié. Donc, il y a une action importante de la part du Saint-Esprit. C'est d'abord une œuvre de destruction. Le Saint-Esprit vient détruire en nous ce qui n'est pas bon à la gloire du Seigneur. La Bible nous exhorte, de cette façon, faites mourir les actions de la chair, les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, dira l'Épître aux Colossiens chapitre 3 et au verset 5. Une action de faite mourir, ce qui souille, ce qui divise, ce qui nous empêche de marcher correctement, ce qui divise la personnalité. Il y a là un devoir de destruction. Aucun d'entre nous ne peut se soustraire à cette vérité. Personne ne peut le négliger aussi. Comment on va s'y prendre? Comment on va accomplir cette tâche d'élimination? Comment détruire ce qui doit disparaître de notre vie? Je ne sais pas pour vous, mais je pense que tout chrétien normalement, bien constitué, contemple le Seigneur Jésus dans les Écritures. Elle est un miroir qui me reflète, mais qui me reflète Jésus-Christ aussi. De manière à ce que j'ai toujours une vision de ce Jésus parfait qui me renvoie l'image que je suis imparfait. J'espère qu'ici, il n'y a pas des gens qui croient qu'ils sont parfaits, si ce n'est que par la foi en Jésus-Christ, bien évidemment. Parce que ça serait terrible. Je me dirais, si tu te crois parfait, c'est que tu es mort. La perfection n'existe pas sur la terre. On sera parfait quand on sera là-haut. Quand on aura quitté ce qui est de la terre, ce corps terrestre est fragile. Non pas par notre force, mais par l'Esprit du Seigneur. Romains 8, 13 dira ceci. Si par le Saint-Esprit vous faites mourir, donc ce qui doit disparaître, ce qui doit être éliminé, il dit vous vivrez. Rendez-vous compte que la sanctification que fait le Saint-Esprit et que nous devons accomplir par l'action et l'assistance du Saint-Esprit a pour but de nous faire vivre. Vivre. De pouvoir vivre avec le Seigneur. Vivre ne veut pas dire remuer, gesticuler, mais vivre de la vie du Christ en nous. Que Dieu soit glorifié. En se plaçant bien sûr sous l'action du Saint-Esprit, nous pouvons détruire et faire détruire et permettre au Saint-Esprit de détruire ce qui est mauvais, les cellules cancéreuses qui sont là en effet dans nos vies, ce qui tue car le péché a toujours une conséquence de mort. C'est la mort, le salaire du péché c'est la mort. Et le péché dans la vie du chrétien le sépare, voile la face, obstrue sa communion avec le Seigneur. Donc j'ai besoin de laisser le Saint-Esprit, de placer ma vie en effet sous l'action du Saint-Esprit. Comment? Par la prière, en venant en réunion, en écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en me plaçant devant le Seigneur, même à la maison tout seul, je me plains devant Dieu, parce que Dieu ne se rencontre pas que dans l'Église, du moins que dans le rassemblement de l'Église, mais dans ma chambre, dans mon intimité, quand je ferme la porte des bruits du monde pour écouter la voix de mon Seigneur, de m'approcher de lui pour qu'il s'approche de moi, que Dieu soit glorifié. Et nous savons aussi que c'est chacun pour sa part, la sanctification c'est pour soi-même. C'est pas égoïste mais c'est comme ça. Mais je crois de toute manière, quand un enfant de Dieu se sanctifie, il a une réaction, il a une influence sur celui qui est à côté de lui. Je le crois de tout mon cœur. Parce que quand on est à côté d'un chrétien qui est saint et sanctifié, croyez-moi, il fait la différence. Et ceux qui sont à son côté feront la différence aussi parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi tu ne viens pas avec nous te souiller dans le monde. Ah. C'est pas parce que tu le fais que je suis obligé de le faire. Moi je suis désolé, je ne mange pas le même pain. On n'a pas la même table. Nous on est à la table du Seigneur. On mange des légumes. Enfin comme Daniel et ses amis. Nous ne voulons pas nous souiller à la table du roi. Et nous, on a une bonne nourriture, une table est dressée, les mets succulents sont dessus, servons-nous, libre service. C'est gratuit et ça rapporte beaucoup. Que Dieu soit glorifié. Deuxièmement, une action bien sûr créatrice. N'est-il pas écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Et on sait que le Saint-Esprit, s'il détruit d'une part, il peut en effet créer des choses, en effet d'un autre côté. Il peut créer en nous ce qui manque, ce qui n'y est pas. Il peut créer en moi, en effet, cette nature nouvelle dont j'ai besoin, me rappelant du fruit de l'Esprit. Par exemple, dans Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est... Et puis vous connaissez le reste. Sinon, Galates 5, 22... Voilà la référence. Il fait naître ce qui n'existait pas en moi, être patient à l'égard de mon frère qui m'en fait voir toutes les couleurs comme mon fils. comme il l'a rappelé. Comme quoi, si en effet j'ai un œil en moins, j'ai quand même les oreilles, bien que mes oreilles, Dieu me les a guéries. 18 ans de maladie, je devais être sourd et Dieu m'a guéri. Miraculeusement. Alors maintenant j'entends bien, alors d'être sourd, c'est un peu dur. Hein? L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux lors de la création. Il planait, il couvait la terre. Et de ce chaos, de ce tohu-bohu, il est né une nouvelle création. Dieu a fait jaillir des choses, des arbres fruitiers. Dieu a préparé un jardin d'Éden, en effet, pour l'homme. Apprenons à devenir comme un œuf qui se laisse, en effet, couver, au lieu de s'agiter et de s'efforcer à essayer de faire quelque chose sans pouvoir y arriver. En face de ce qui nous manque, sachons que le Saint-Esprit est une puissance créatrice. Il peut faire paraître en nous ce qui n'y est pas. Plaçons-nous donc sous son action avec persévérance. Amen. Que Dieu soit glorifié. Jérémie, il a chez lui, enfin Jérémie et Stéphanie, je vais vous dire un secret, mais t'entends pas, t'es sourd. Il y a des petits poussins dans la maison, plein de petits poussins, et il y a une éleveuse. Alors il y a, c'est une lampe hein, qui met dessus un chapeau, là, pour que ça dégage la chaleur nécessaire pour les poussins. Et nous, on a besoin de la chaleur de la maison de Dieu, on a besoin de la chaleur du Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus réchauffant et réconfortant que la présence de Dieu dans nos vies. Qu'il fait bon vivre à l'ombre d'El Shaddai. Qu'il fait bon de se laisser couver par lui. Lui qui a voulu nous rassembler et qui veut nous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Que Dieu soit glorifié. Une action créatrice, que Dieu soit béni. Alors faisons le troisième point, dernier point, une action énergétique. Une action vivifiante. Ah Seigneur, hein, il me faut un peu de hein, un peu de Mars pour que ça reparte. Mais nous, on a plus que du Mars. On a la puissance du Saint-Esprit. Une manifestation, bien sûr, du ministère du Saint-Esprit de sanctification. Celui qui nous sépare, comme je le disais ce matin encore, de la paresse spirituelle. Ah, c'est dur aujourd'hui hein, de se déplacer. C'est dur, en effet, de laisser tomber les choses de ce monde pour venir écouter la parole de Dieu. Ah, que c'est dur de laisser ses propres affaires pour considérer les affaires de notre Père qui est dans les cieux. Ah, que c'est dur de parler, comme Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'achever l'œuvre à laquelle j'ai été appelé. Nous, comme lui, nous avons été appelés à servir le Maître. À ne pas nous attacher aux choses d'en bas, mais à nous attacher à celles qui sont en haut. Mais encore une fois, si le Saint-Esprit n'est pas là pour me révéler les choses d'en haut et voir la gloire, la gloire, la gloire, comment pourrais-je abandonner les choses d'ici-bas, puisque le diable me fait croire qu'il n'y a rien de plus beau que ce qui est sur la terre. Désolé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous avons plus que l'or précieux. Nous avons la gloire du Père qui nous attend. Que Dieu soit glorifié. Éphésiens 3:16 nous dit que nous pouvons être puissamment fortifiés dans notre être intérieur, mon être intérieur. Je pense que quand vous quittez les problèmes du boulot, je ne sais pas, vous vous retrouvez à la maison, mais vous ne pouvez pas vous séparer de vous-même. Vous ne pouvez pas laisser votre corps d'un côté, l'esprit de l'autre côté. Nous ne sommes pas de ceux qui font de la méditation transcendantale. Sentez les gens qui sortent du corps. C'est dangereux parce que tu peux parvenir des fois. Hein, mais il y a autre chose qui peut rentrer. Nous, nous voulons en effet nous laisser puissamment fortifier dans notre être intérieur par le Saint-Esprit. Parce que quand je m'en vais et que je quitte le problème que j'avais confronté, je reviens avec la maison, mais la douleur, elle est là. Qui va m'aider à me fortifier dans mon homme intérieur? Qui? Quand j'ai perdu mon œil, il y avait 11 frères et sœurs, nous sommes. Personne n'a pu me consoler. Personne. Vous êtes seul avec votre problème, seul avec votre handicap. Vous pouvez avoir 10 000 personnes autour de vous et vous dire « Oh, mon pauvre, je suis là, je vais faire ceci. » Oui, mais personne ne porte votre handicap. J'ai eu 2 yeux, j'ai perdu un œil. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour moi de fixer, de lire. Avec toutes vos prières, tout ce que vous voulez, toutes vos paroles, c'est vrai. Dieu va entendre, viens m'aider. Mais qui c'est qui va pouvoir m'aider dans mon homme intérieur? Vous ne pouvez pas rentrer dans mon cœur. Vous ne pouvez pas rentrer dans mon âme. Mais lui, le Dieu peut le faire. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une bénédiction, le Saint-Esprit. C'est une grâce extraordinaire que Dieu nous a donnée. Alors que Dieu nous aide, frères et sœurs, soyons fervents d'esprit, servons le Seigneur de tout notre cœur, soyons remplis du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit faire l'œuvre pour laquelle il a été envoyé, nous sanctifier les uns et les autres, en nous plaçant devant la vérité, afin que nous choisissions et que nous fassions le bon choix. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta famille. J'ai mis devant toi un petit chemin, large, étroit et resserré, mais qui conduit à la vie. L'autre, il est large, espacieux, il y en a beaucoup qui entrent par là. Toi, tu es entre les deux, tu choisis mon frère, tu choisis ma sœur. Qu'est-ce que tu veux? Servir le maître? Alors il n'y a pas 36 solutions, il n'y a qu'un seul chemin pour y aller. C'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu qui est bonne, agréable. Alors si elle est parfaite, il n'y a pas mieux. Alors le choix est vite fait, non? Prions ensemble, s'il vous plaît. Amen. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit béni. Seigneur, nous ne nous lassons pas de venir devant toi. Chaque fois que nous nous rassemblons, ce n'est pas une fois de trop, mais une occasion favorable pour faire du bien à notre âme. Et nous ne voulons pas nous conduire comme des insensés. Nous ne voulons pas priver notre âme de la bénédiction qu'il y a lorsque deux, trois se rassemblent en ton nom. Tu es au milieu de nous. Seigneur, et si nous nous rassemblons, c'est pour devenir meilleurs. Alors Seigneur, nous voulons travailler à notre salut. Nous voulons travailler en effet au développement du salut dans notre âme, dans notre vie tout entière, et que nous puissions grandir, Seigneur, à tous égards, en stature, en sagesse, en puissance, en parole, en action, devant toi, devant le diable, mais aussi devant les hommes. Que ton Église croisse, s'accroisse par l'assistance du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, bénis mes sœurs, bénis mes frères, bénis les jeunes, bénis les moins jeunes, étends tes mains, permets-nous d'être ensemble pour bâtir unis comme un seul homme, pour permettre à ton Église de grandir, de nous édifier les uns et les autres, donne-nous de contribuer à la croissance de l'Église par l'obéissance, par une conduite digne d'un enfant de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et nous te disons merci tous ensemble. À toi l'honneur, la gloire et la puissance au nom de Jésus-Christ. Et nous disons, Seigneur, envoie la puissance sur ton peuple. Envoie la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, baptise-nous de feu. Remplis-nous du Saint-Esprit. Ô mon Sauveur, remplis les vases que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Que Dieu soit glorifié.